comprenez ce que je veux dire? Et en général, c'est lui et c'est vide. Est-ce que c'est clair? Et alors, là, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est qu'à ce niveau-là, Abraham, Isaac, Jacob, il n'y a pas de faute au niveau des actes. Ce sont des tzadikim gmourim. Plus tard, nous allons voir leurs descendants faire la même chose, mais là va entrer le Yetzer Hara. Là va entrer la faute. Possiblement, par exemple, avec l'autre exemple, la vente de Joseph par ses frères. C'est-à-dire qu'on aura le temps d'élucider cela. Il y a eu un procès. Les frères de Joseph ont mis Joseph en procès. Et c'est tout kacher, tout tahor, tout kadosh. C'est tous des tzadikim. Okay? Et nous allons essayer un peu, avec le Shla en particulier, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ce procès. Okay? Mais lorsque des petits juifs, plus tard, vont jouer à ça, alors là, ils vont se haïr. Là, ils vont se jalouser. Là, le Yetzer Hara va rentrer. Alors là, il y a faute. Mais pas au niveau des Gdolim. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, ces fondateurs de l'identité ont joué, dans le sens noble, joucien, du mot « jeu », ont joué les thèmes d'identité de cette existence. Tous dans la pureté absolue. Okay? Lorsque, au niveau de l'individu des descendants, ces thèmes inévitablement reviendront. Et d'ailleurs, ça vaut pour l'identité humaine en général. Tout le monde joue à la Bible, c'est ça l'histoire humaine. Okay? Avec cette différence qu'en Israël, c'est vrai. C'est la différence. Bon, attendez, j'ai pas fini ça. Alors là, oui, quand des petits frères d'un petit Joseph vont jouer au procès de Joseph, là, il y a haine, jalousie. Pourquoi? C'est la différence entre le Yetzer Hara à l'échelle de l'individu et d'autre part la Kdusha de l'identité collective des Avot HaOlam, des fondateurs. Bon, je vous ai lancé un petit Maharal là qui est énorme. Il va nous accompagner pendant 6 jours. Et le 7e nous sera pas. Mais, je vous donne un exemple. La Gemara dit, c'est dans la Gemara de Shabbat. Haomer Reuben Hata. Eno et la Torah. Haomer David Hata. Eno et la Torah. Celui qui dit, Reuben a fait une faute. Chapitre 10, verset tel. Okay? Eno et la Torah. Comment traduire ça gentiment? Ce n'est qu'un juif errant. Torah. Et il se trompe. Et il ne sait pas de quoi il parle. Celui qui dit, David a fait une faute. Il ne sait pas de quoi il parle. De quoi il s'agit? Quand un juif refait, à l'échelle individuelle, ce que Reuben a fait, ou ce que David a fait, là il y a faute. Mais quand c'était David et quand c'était Reuben, ça c'est Kdusha. Premièrement, il faut savoir qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Jusqu'à ce qu'au moment où on comprend, alors on comprend que c'est tout à fait autre chose. Ça y est, c'est clair? Enfin, alors, je referme la parenthèse sur la phrase par laquelle j'ai commencé. Ne vous laissez pas dire que ces hommes dont la Bible nous raconte l'histoire étaient des hommes comme nous. Ça n'a aucun sens. C'est, je me rebranche au séminaire du soir, c'est du sadducéisme. Et de ça, je parlerai dans les conférences du soir. Vous voulez poser une question?
Oui, simplement dire que si on nous l'a raconté quand même, quand même pour qu'il y a tout à nous faire, nous aujourd'hui, quand on va être tenté de recommencer, quand on va se retrouver dans des situations analogues, je veux dire, ils ne sont pas des hommes comme nous, nous ne sommes pas des hommes comme eux, mais ils sont quand même de la même nature humaine et de la même...
Avec cette différence d'essence qu'ils ont, une identité collective en une seule personne et que nous sommes des microbes d'un ensemble. C'est ça que je vais essayer de comprendre et d'éclairer. Et d'ailleurs, je ne suis pas tellement d'accord, parce que pour savoir comment il faut faire quand nous sommes dans leur cas, on a un Shulchan Aruch. Vous comprenez ce que je veux dire? On a un Shulchan Aruch. Ça n'a rien à voir. Vous avez un chapitre entier du Rav Chaim de Volodine, dans le Nefesh Chaim. Là, il était en pleine controverse avec les Hasidim sur un autre problème, où il répète au marteau pilon, ne prenez pas les récits de l'histoire des patriarches comme modèle. Ça, c'est des alibis du Yetzer Hara. Hein? N'allez pas dire, je vais faire comme eux. Parce que ça, c'est le mythe qui s'introduit chez l'individu. Je m'explique. Donc, je me branche un peu à la conférence que je vous ai faite il y a quelques mois sur mythe et midrash. Vous vous rappelez de ça? C'est quand un individu tout seul se prend pour Israël. Vous comprenez? C'est quand un individu prétend être ce que la Bible dit de la collectivité d'Israël. C'est ça le mythe christique. Je m'excuse, je ne veux froisser personne. Mais pour une conscience juste, une maladie mentale. Ça, il faut savoir. Hein? Parce que se prendre pour Israël, ça, c'est le commencement de la folie. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est un vertige tel que ça rend fou, d'ailleurs. Mais qui a ce vertige? C'est celui qui est déjà fou. Il n'y a pas d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves, faites bien attention, ne particularisez pas à l'échelle individuelle ce que la Torah doit nous enseigner comme étant la geste historique de la collectivité d'Israël. Mais celui qui tout seul met une croix sur les autres juifs, et se prend lui pour Israël, clair, Gamarnou, faites bien attention à ça. Non, 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 mais j'en ai profité. C'est que... Ma, Zéou, Siman, très bien. Siman. Et Remez, Siman. Je veux dire ceci, pour clore cette parenthèse, simplement, pour le dire en fait de façon un peu plaisante, parce que ce sont des sujets graves, et malheureusement, énormément de juifs et de juifs, d'ailleurs de non-juifs et de non-juifs, sont atteints de cette maladie aujourd'hui, enfin de notre temps, où les événements recommencent, et où, si vous voulez, on est affecté par l'ambiance apocalyptique de ce qui se passe dans le monde, et aussi dans les fraises, et alors, vous connaissez cette blague des étudiants en médecine, il y a des étudiants en médecine qui ont étudié la médecine pour savoir quelles maladies ils ont, et ils les ont toutes. Chaque fois qu'ils trouvent une maladie dans le dictionnaire, ça y est, je suis retrouvé à peu près le problème. Alors, refermons la parenthèse, mais je voudrais quand même revenir sur cette phrase, je me base là sur le Rav Chaim de Volodjin, c'est moi qui ai ajouté, c'est un signe de maladie mentale, pour le Rav Chaim de Volodjin, c'est beaucoup plus grave, il dit, c'est une faute. Vous avez compris, de jouer à Judas, de jouer à Joseph, de jouer à Abraham, de jouer à Isaac, de jouer à Jacob. Ça y est, c'est clair. Donc, il s'agit des thèmes de l'identité collective d'Israël. Alors, continue. Et je ne sais pas si j'ai conclu au moins provisoirement sur le Rambam. C'est dans, si vous voulez, l'imprudence qu'il y a eu, que se dévoile, quand ça va jouer au niveau de la descendance, alors ça jouera comme ça. Vous vous rappelez, Abraham en Égypte, on a déjà un petit scénario de ce qui va se passer dans les rapports entre Israël et l'Égypte. J'essaierai de l'expliquer de cette manière. En suivant toujours l'enseignement du Khatam Sofer, on peut comprendre que les rapports entre Abraham et Sarah préfigurent aussi les rapports entre Israël et la Torah. En ce sens qu'il y a aussi deux aspects, deux visages de la Torah. Le visage caché de la Torah, qui est la femme, et le visage dévoilé de la Torah, qui est la sœur. Or, Israël, avec sa Torah, se balade dans le monde. Et cette Torah a deux visages. Il y a une parole pour l'ensemble du monde, universelle, et une parole spécifique. Okay? Alors voilà, le peuple juif et sa Bible. Et puis il voyage. Alors on lui demande, mais cette Bible-là, c'est quoi ? Universelle ou spécifique ? Ta femme ou ta sœur ? Vous comprenez le... Ah, il dit, mais c'est ma sœur. Okay? Puis il parle au lui. Ah, c'est ta sœur ? Alors on va te tuer, on va la prendre. Et c'était l'histoire du peuple juif et de sa Bible chez les Goïms. Okay? Je reviendrai, mais nous aurons à revenir sur cette espèce de tabou, blackout, énorme dans la civilisation occidentale chrétienne, que la Bible, c'est pas les Juifs, d'ailleurs la Palestine non plus, c'est le même problème d'ailleurs. Et non, c'est pas à vous, puisque c'est à tout le monde. Mais c'est vous qui avez dit que c'est à tout le monde, donc c'est pas à vous. Et alors vous nous gênez quand même, on va vous mettre une croix dessus, on va vous mettre sur la croix, ça va même d'ailleurs, à un certain niveau, et puis on va vous la prendre, votre sœur. Ah oui, mais c'est ma femme. Alors dis, décide, c'est ta femme ou ta sœur. Vous voyez la difficulté du problème. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors je crois que nous pouvons comprendre donc le Ramban à la manière du Maharal. Il n'y a pas simplement eu un acte d'imprudence. Et le Maharal a raison de dire, quoi, tu me parles d'un péché originel quelconque, hein? Non. Non, il y a vraiment une trouna, une tendance, qui lorsqu'elle se reproduit à l'échelle des descendants, alors là il y a un problème de faute et châtiment éventuel. C'est-à-dire, nous jouons un jeu d'identité. Mais lorsque l'individu assume, s'approprie, s'annexe cette vérité d'identité collective avec ses propres motivations fautives et intéressées et imprudentes, alors là, il y a faute et punition. Autrement, ce n'est pas faute et punition, c'est un tikkun haolam. C'est un geste de l'histoire humaine à un niveau de sainteté absolue. Lorsque Abraham, pour la première fois, pour la deuxième, et ensuite Isaac pour la troisième, va dire au monde, ma femme, c'est ma sœur, il y a là une explosion de sainteté. Ça n'a rien à voir avec une petite lecture caricaturée de ce que le Ramban nous aurait dit ici. C'est clair? Vous voyez, contre qui s'oppose le Maharal? Pas contre ce Ramban, à ce niveau-là, contre une lecture éventuelle d'un parasite de Ramban, même s'il fait une synthèse là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon, s'il n'y a plus de questions sur ce premier paragraphe, on enchaîne à Ken, et que je mette les lunettes. Ken. Ah, c'est toi, salut.
Pourquoi est-ce qu'il se trouve qu'il aurait pu dire, il aurait évidemment pu dire que c'était son épouse. Et il y avait un regret. Alors quel est ce risque? Et pourquoi peut-être qu'il pourrait le risque de dire que c'est pasteur? Parce qu'en France, c'est pareil, c'est
faux. Voilà, je vais vous répondre très... Attends, d'abord, parce que sinon, ça fait rien. C'est le mieux, c'est pareil. En vous citant, là où vous trouverez vraiment la réponse, parce que vous êtes très schématisé, dans l'enseignement du Malbim, sur ce verset. Retenez, Malbim, et vous l'étudiez là-bas. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y avait des niveaux d'identité dans les sociétés anciennes, traditionnelles, et que, en particulier, chez les pharaons, on ne se mariait qu'avec sa sœur. Vous vous rappelez de cela? Ça touche à notre thème, pas exactement de la même manière, et je ne dirais pas d'ailleurs, même pas schématiquement, que c'est le même thème inversé, c'est plus compliqué que ça, mais en Égypte, par exemple, le texte nous parlera du le pharaon, ses serviteurs, les Égyptiens. Il y avait des niveaux. Okay. Bon, la famille royale, et c'est vrai dans beaucoup de civilisations, c'est toujours connu comme étant de sang bleu. Vous savez ce que ça veut dire en français, être du sang bleu. Je ne veux pas du tout ouvrir ce chapitre-là. Peut-être que c'est vrai qu'il y avait des familles humaines d'une autre identité que les autres. Je pense que oui, mais enfin, c'est un problème tellement vaste qu'on ne peut pas rentrer dedans. Maintenant, sans l'érudition préalable qu'il faut avoir. Et puis, ça s'est atténué jusqu'à la mort de Louis XVI. Bon, c'était Louis XVI. Bon, là, on s'est rejoint. Le peuple et le pâle sang bleu. Alors, c'était un crime de lèse-majesté, dit le Malbim, qu'on trouve quelqu'un qui n'est pas reconnu comme étant de la race des rois, avoir pour femme ce genre de belle femme-là. Ça, c'est la sœur du pharaon. Est-ce que c'est clair? Il y avait effectivement un danger. Il découvre, tu sais, tu es belle comme la femme du pharaon. C'est moi qui ai dit, okay? Si on croit que tu es ma femme, on va me tuer pour crime de blasphème, de lèse-majesté. Et on va la prendre chez le pharaon. Okay? Alors, dis que tu es ma sœur. Et là, on m'honorera, enfin, ça c'est le pchad, mais derrière, il y a le haïta nafshi birlaler. Tant que tu n'as pas dit que tu es ma sœur, je ne suis pas vivant. Et c'est autre chose qu'il y a dans le texte. Bon. Bien, alors, ah oui, la deuxième question, t'as l'air. Très parallèle, c'est juste, c'est très bien, c'est exact, c'est très très parallèle, c'est très parallèle. Bien, et d'ailleurs la Gemara explique ça, okay. C'est dans la fin de la Gemara de Sota, Esther Haïta Karka Aolam, pour ceux qui connaissent la référence. Bon, un jour je vous parlerai d'Esther. Et alors, deuxième paragraphe, s'il n'y a pas d'autre... Alors, vous avez le deuxième paragraphe, faites attention. C'est le deuxième petit morceau de paragraphe en haut. C'est la suite. Et après, on fera le texte. Parce qu'on a fait un montage de... Alors, on vient de lire ça. Maintenant, juste en face. Okay. « Vekvar okshur alav kashyot atchene ekar pirusho mikol vakol. » Et déjà, les postérieurs de Nachmanide ont objecté contre lui de telles objections que cette explication-là a été arrachée complètement. Mais c'est pourquoi j'ai pris une longue... introduction pour vous dire, faites attention. Okay. Qu'est-ce qui a été arraché? Parce que c'est Nachmani. Nachmani est un des grands maîtres du Maharal lui-même. Okay. D'abord, il vient avant. Rishon, Aharon. Vous comprenez le jeu. Et faites attention. Le Maharal est un pharisien cachère. Okay. Il ne va pas s'opposer à ses maîtres. Et alors, qu'est-ce qu'il veut opposer? À quoi il s'oppose? À une lecture éventuelle, type péché originel, de l'enseignement de Ramban. Lui, le Maharal, va choisir d'autres trounos. Celle que la Gemara va nous enseigner tout à l'heure, déjà. Sharé, et voilà quelques arguments. En passant, et je vais passer assez vite. Sharé, ahar, shenik zaragalout, alav. Après donc, selon ce que tu m'as dit, toi, Nachmanide, si je lis comme ça, après donc que déjà l'exil aurait été décidé contre Abraham parce qu'il a dit de Sarah qu'elle était sa sœur, et l'a mise en danger, hazar Abraham, keshalar le grar. Il a recommencé une deuxième fois avec le territoire de Gaza. Une première fois, c'était l'Égypte, et là, c'était le. Gerard, c'est l'endroit de Abimelech, c'est-à-dire Pelachet originel. Vous vous rappelez de cela, okay? Alors comment? De quoi tu parles? Abraham a fait une gaffe pareille. Et Dieu lui dit, ouf, tu vas être puni comme ça. Okay? Destin. Il recommence encore. Je ne comprends pas. Ça y est, c'est clair? Ve'amarachoti, et il dit, allez ma soeur, encore une fois. Ve'echitachemze, comment c'est possible cela? Shachar shachata ve'ne'enash. Shachar shachata, après qu'il ait fauté. Mais Anachoto, et Dieu, sous-entendu, l'a puni. Onesh Gadol, une telle grande punition, Yahzor Lahato, il recommence à fauter. Halila Lomarka. Ça n'a pas de sens. Ken? Bon. Verod Yitzhak, et pas seulement Abraham a recommencé, Isaac, son fils. chez Amargan Ken qui a dit lui aussi, Achoti, c'est ma sœur. Lama Asazé, pourquoi l'a-t-il fait, Achar chez Abraham le Enash, après qu'Abraham eût été puni, Ech Yaheta, Hu, comment Isaac recommencerait cette même faute. Vous comprenez le raisonnement. Veyeshahirim, et encore d'autres commentateurs, Minaharonim, des postérieurs, des commentateurs postérieurs, chez Otsiou Milibam, qui ont sorti de leur cœur, regardez le langage dur du Maharal, chez Otsiou Milibam, Od Davaraher, encore une autre chose. Pour ceux qui sont un peu dans le secret de l'hébreu, chaque fois qu'on dit Davaraher, c'est Arayot. Vous savez ça? Non, c'est pas. Vous savez, Davaraher. Une autre chose. Chez Amrou, qu'ils ont dit, chez Heta Galut, Haya, que la faute de l'exil, ça veut dire, la faute que l'exil vient punir, Hi, Haya, c'était de Heta Shvatim. La faute des tribus, Bimchirat Yosef, dans la vente de Joseph. Ve'af Yosef hata, et que Joseph lui-même aurait fauté, mi penesh aliado aita mechira, puisque c'est à cause de lui qu'il a été vendu. Vous voyez, sophistiqué en plus. Chez Yosef Garamze, puisque c'est Joseph qui a été cause de cela, chez Imlo Heridiba et la Bible, parce qu'il n'avait pas calomnié ses frères chez son père, lo yirase, cela ne lui serait pas arrivé. Ou mi penesh aliado tson, Et par le fait que c'est à cause d'une histoire de troupeau, Haïta Mkhira, que cette vente de Joseph a eu lieu, d'après ce qu'il est écrit dans le chapitre 32, les frères de Joseph étaient allés faire paître le troupeau à Shrem, à Sichem, Shrem, ou Fichar, c'est pourquoi, c'est à cause de leur troupeau qu'ils ont dû descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine, et donc il fallait trouver Mila'e Latson. Des pâturages pour le troupeau. Vous voyez, c'est très sophistiqué d'ailleurs comme explication. Puisqu'il n'y a pas de pâturage pour le troupeau qui appartient à tes serviteurs, c'est ce que les frères de Joseph, descendant en Égypte, vont dire à Joseph qu'ils ne reconnaissent pas encore comme étant leur frère Joseph. Pourquoi nous sommes venus? Eh bien, parce que. Et puis, c'est reproduit plus exactement après, lorsque Joseph va leur donner la consigne, si le pharaon leur demande qu'est-ce que vous venez faire ici, les Hébreux sont arrivés. Il dit, ben, c'est que nous n'avons pas de pâturage pour nos troupeaux. Et puis on va découvrir que les troupeaux des Égyptiens n'avaient pas de berger. Alors ça s'arrange comme ça. Vous voyez à peu près le problème. Et nous devons ma chère Amour, Tzat Minacharonim. Ça, ce sont des choses qu'ont dit certains des commentateurs postérieurs. Nous devons nous endomim, les Tzoura, à Metsuyeret à la Kotel. Et tout ça, ça ressemble à des graffitis sur les murs. Vous voyez, c'est joli comme expression, ok? Asher, Ametsayer, Meyafeota, que le Metsayer, comment vous appelez ça, le dessinateur, okay, enjoline, ou Bisrad, Itaerota. Et avec Birdeserad, par exemple, ça veut dire des enjolivements. Okay, ça veut dire produit de l'imagination, d'une imagination jolie. Regardez, le Maharal permet un peu d'humour, c'est des bons peintres. Asher, Asher, Ire, Aroe, Merahog. Jusqu'à ce que, quand quelqu'un voit ces choses-là, de loin, Yomar, chez Yeshbar ou Ahaïm, il croit que c'est vivant. Des apparences tellement bien dessinées que de loin, on croit que c'est vivant. Ou chez Taraveléa, mais quand il s'approche, ou d'avoir savoir. Ce sont des choses savoir. Ça veut dire à la fois peinte et hypocrite, pharisienne, dans le sens négatif. D'avoir savoir. Il n'y a aucun souffle vivant dedans. Car Hem et Loa Pirouchi. Comme ça sont des explications-là. Ça me rappelle une toute petite parenthèse, c'est un thème que je répète souvent, l'histoire des épouvantails. Un jour, le Rav Kook nous a expliqué que c'est un épouvantail. De loin, ça fait peur, tu t'approches, ça fait rire, et alors tu pleures. Okay. Vous voyez à quoi je pense en parlant des épouvantails, hein? Ceux qui présentent la vérité de la Torah avec des grandes barbes et des grandes houppelandes, et puis ça fait épouvantail, ah, touche pas. Okay. De loin, ça fait peur, tu t'approches, la suite. C'est clair? Et je vous raconte une histoire du Hatam Sofer d'ailleurs. Non, c'était le Hatam Sofer. Le Havet Haïm. Elle était le Havet Haïm. Je ne sais pas si je vous racontez ça. C'est le Rav nous a raconté aussi. Le Havet Haïm était un berbe. Il n'avait pas de barbe. Il y a des peaux comme ça. Et alors, un jour, avant que j'y arrive, je vous raconte une histoire du Rav Alfandéry. Le Rav Alfandéry a été un des derniers grands rabbins de Jérusalem de la fin de la génération précédente, le grand rabbin des Sfaradim, le Rav Alfandéry. Il était très pauvre. Alors, un jour, il a fait venir un peintre qui a peint derrière sa chaise le mur derrière, il a peint une bibliothèque fictive. Vous voyez des... Alors on lui a demandé, mais pourquoi tu as peint ces livres-là comme ça? Il dit, écoute, je vais t'expliquer. Chaque fois, il y a des juifs qui viennent me demander conseil. Quand ils ne voient pas que j'ai des livres, ils voient que je n'ai pas de livres, ils croient que je suis ignorant. Alors j'ai fait peindre des livres pour que... Vous voyez ce que... Pour qu'ils soient rassurés. Bon, je reviens à Chafetz Chaim. Un jour, il rentre dans une synagogue, il voit au fond de la synagogue un vieux juif avec une grande barbe et un grand livre devant et une grande kippa. Il s'est dit, tiens, voilà un Tamil Chacham, il avait une question qui le... Il s'approche et il lui pose sa question. Quand il lui dit, écoute, moi, tu sais, je suis un juif qui a une barbe, qui a un livre, je ne sais pas. Hein. Alors le Chafetz Chaim, il a fait une prière, il a dit, mon Dieu, comme tu as mal réparti la Torah et les barbes. Alors, revenons. Voilà. Non, je vous dis ça, c'est pas pour rien. Hein. Vous comprenez qu'il y a toujours des raisons. Et alors, hein, en hébreu, épouvantail, ça se dit dahlil. Au moins, on a pris un mot d'hébreu. Alors, on continue. Kikaacher Adam yedakdekvazé. Parce que quand l'homme va préciser, étudier dans les daïek, comme les dagdek, ça veut dire, va étudier en détail ces explications qu'on nous donne. L'Omar chez Israël, Baou, Bagalout, Bichlin, Mechirat, Yosef, que Israël est descendu en exil à cause de la vente de Joseph, et vous voyez tout de suite que ça fait derrière, péché originel. Et ce serait un dieu monstrueux. Vous comprenez le problème. Imatse, Insa, chez Zé, Refer, Imachmarot, Atatou. Il trouvera finalement que c'est le contraire de ce que dit le texte. Efer, Imachmarot, Atatou. Chakadosh Baruch Hu Amar Lo Abraham, parce que Dieu a dit à Abraham, Kodem Legat Ashratim, avant la naissance des tribus, Dieu a dit à Abraham, Yadoar Tedar Kibirezor, tu sauras que ton peuple est voué à lui. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, tout ça c'est très joli, mais réveille-toi. Dieu a dit à Abraham, tu cherches un signe, ta descendance sera en exil, bien avant qu'il y ait une histoire de. Et alors, Mara, ça y est, le Mara va me dire quelque chose d'énorme, c'est tout le contraire. Les frères de Joseph ont vendu Joseph pour pouvoir descendre en Galut. Parce qu'il fallait descendre en Galut, puisque c'est ça que Dieu a dit à Abraham. C'est tout le contraire. Vous voyez qu'on va avoir un peu de vertige. Hein. C'est juste autre chose. Et j'ai lu dans le Torah Tmima, dans le Torah Shlema, qui cite un des Midrash Shlema peu connu, mais vous vérifiez dans le Torah. C'est que c'est vraiment tout le contraire. Jacob devait descendre en Galut. Pour son honneur, pour pas qu'il descende comme un expulsé, comme un exilé, alors il y a eu toute cette préparation. Que Joseph descendra avant et deviendra le roi de l'Égypte et l'accueillera de roi à roi. Pour l'honneur de Jacob, il fallait que Joseph descende préparer tout ça. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point ça va? C'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Okay? Alors, comment allons-nous comprendre que c'est ça qu'il faut faire, vendre Joseph par ses frères pour que l'exil commence? Eh bien, il faut étudier, on étudie, on comprend, on finit par comprendre. Mais celui qui croit que c'est des histoires qu'on vit tous les jours des hommes comme nous, se trompe évidemment. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on va nous rapetisser le message de la Torah à des dimensions pathologiques de quelqu'un qui se prend pour Israël. Vous avez compris le problème. Je voudrais en profiter quand même, puisqu'on parle de ce principe, pour vous citer cela. Je ne me souviens plus qui l'a dit, mais ça m'avait été cité dans un de ses séminaires. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a un auteur contemporain qui a comparé le peuple d'Israël et le peuple allemand de la manière suivante. En me disant, c'est exactement l'inverse. Dans le peuple allemand, à l'échelle individuelle, il peut avoir des grands hommes, des génies. À l'échelle collective, vous savez quelle est l'histoire de l'Allemagne. Tandis que dans le peuple d'Israël, c'est l'inverse. En tant qu'entité collective, Israël, c'est colossal. À l'échelle individuelle, chaque juif en particulier peut être tout le Chazvei Shalom. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça un peu qu'il faut comprendre. Lorsque la Torah parle d'Israël, elle parle de la nation d'Israël. Pas de monsieur un tel qui se prendrait pour la nation d'Israël. Fuch Nahum Goldman, je ne sais pas drôle.